Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Bienvenue à tous au volet discussion du podcast Commerce Élite et on a la chance aujourd'hui de recevoir Jonathan Ménard, directeur marketing chez Polysleep. Polysleep, une entreprise canadienne spécialisée dans les matelas en mousse mémoire, est reconnue non seulement pour la qualité de ses produits, mais aussi pour sa présence impressionnante sur les médias sociaux. On a déjà d'ailleurs reçu Jonathan sur le podcast. C'est une deuxième fois aujourd'hui. Jonathan, merci beaucoup d'être avec nous.
Antoine, c'est toujours un plaisir et pour vrai, tu vas peut-être changer ma vie aujourd'hui. Parce que je me suis réveillé, j'ai toujours eu comme feedback de me faire dire quand que je vais faire une présentation, un podcast, je parle trop vite. Je me suis pratiqué un matin dans le char à parler lentement. Ça va être mon test du jour. Fait que j'espère que ça va bien aller aujourd'hui. En ce moment, dans mon cerveau, j'ai l'impression de parler extrêmement lentement, mais je me pratique. Fait que on ajustera le débit ou mettez-moi en 1.5 si vous trouvez que j'abuse trop. Mais Antoine, peut-être que tu vas changer ma vie aujourd'hui. Puis merci de me recevoir et merci à tous les auditeurs.
Ben, je trouve que c'est un excellent départ.
Ouais.
T'es bien posé, c'est calme, tu fais honneur à chaque discussion qu'on a eue ensemble depuis le début. Jonathan, la dernière fois qu'on s'était parlé, on avait parlé beaucoup de stratégie omnicanale parce que soyons honnêtes, Polysleep, vous avez commencé très, très fort en ligne, vous êtes allé par la suite dans des magasins. Est-ce que pour les gens qui n'auraient peut-être pas écouté le premier épisode qu'on a fait ensemble, qu'on mettra dans les notes de l'épisode, tu pourrais expliquer à notre audience spécifiquement qu'est-ce que Polysleep, qu'est-ce qui vous distingue également de votre environnement compétitif?
Donc, Polysleep a été créé dans une époque peu lointaine, 2016, mais les choses ont bien changé depuis 2016. Nous, on est vraiment dans l'industrie des matelas et c'était une industrie qu'il n'y avait pas eu d'innovation pendant plusieurs années. Puis du jour au lendemain, grosse innovation. Les matelas ont pu être transportés en boîte, donc ça a vraiment révolutionné l'industrie. Et en 2016, ça commençait. Il y avait des joueurs comme nous, de taille petite, moyenne, qui commençaient, mais il y en avait d'autres avec les reins plus solides. Vous avez sûrement vu des Casper de ce monde, des Dormez-vous qui se sont lancés au même moment. Ils ont vraiment carry, justement, ils ont transporté cette industrie-là dans les premières années à faire découvrir aux gens cette nouvelle façon de transporter des matelas qui était équivalente avant. C'était surtout super bon pour les magasins, pour l'entreposage. C'est là que ça l'a permis de vendre des matelas en ligne parce que ça n'a jamais été évident de vendre un matelas qui n'est pas dans une boîte pour les moyens de transport, les suppléments. Donc, on a fait partie de cette aventure-là au début. C'était chose plus simple parce qu'il y avait moins de compétition. On était dans les premiers. Donc, juste par du bon marketing, un bon produit, les ventes arrivaient. Donc, ça l'a grandi comme ça. Et est arrivée la pandémie. Chose positive pour nous parce qu'on avait commencé uniquement en ligne. Donc, nous, ça a été vraiment une période fortuine. Nos meilleures années en vente durant la pandémie parce que les boutiques étaient fermées, les gens rénovaient. Il n'y avait pas de vacances qui se passaient pendant peut-être 1 an, 2 ans. Ils rénovaient une chambre, ils agrandissaient leur maison. Donc, ça a été vraiment bien. Et arrive l'après-pandémie où que là, justement, on a vu une décroissance un petit peu du point de vue en ligne. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a pris la décision de partir un nouveau département qui allait vraiment être dédié à vendre nos produits, non pas seulement en ligne, mais en magasin. Ça a commencé comme ça. Puis ça a évolué quand même grandement au point que maintenant, c'est rendu une stratégie qui fait partie de l'entreprise, du futur de l'entreprise, de trouver des façons justement. Puis c'est là qui vient intéressant en marketing parce que quand on commence cette aventure-là, on pense que on réalise le même marketing pour les deux canaux, mais plus que ça l'avance, plus qu'on voit qu'on peut adapter les stratégies de prix, de produits, de promotion, de marketing, médias sociaux comme qu'on parle en ce moment, pour être adapté à des magasins qui sont pas nous nécessairement, qui est d'autres commerces qui vendent nos produits. Mais c'est de quoi être super intéressant. Ça nous a permis justement de rester en croissance. Même avec une décroissance du e-commerce, les ventes en magasin nous permettent justement d'avoir un relent de fraîcheur.
Fascinant. Et bon, vous avez fait partie de cette première catégorie, on pourrait dire, d'entreprises québécoises qui étaient dans une nouvelle catégorie, on pourrait dire ça comme ça. On s'adresse directement aux consommateurs. Les plateformes payantes sont pas tellement chères à ce moment-là. On peut donc investir beaucoup en pub. On vend nos produits. Les choses vont bien. Et là, du jour au lendemain, les gros joueurs, les Meta, les Google de ce monde, ils se rendent compte qu'ils font faire énormément d'argent à des entreprises comme la vôtre. Ils augmentent leur prix pour faire de la publicité sur leur plateforme. Ça vous amène à avoir des stratégies différentes, omnicanal, comme on avait discuté. dans notre premier podcast ensemble, mais ça nous amène également peut-être à voir le volet organique. Et c'est une discussion que toi et moi, on a eue la dernière fois ensemble que j'ai trouvée assez fascinante. Tu m'expliquais que ça a beaucoup évolué, votre vision du volet organique chez Polysleep. Peut-être que tu pourrais dresser un peu un portrait à notre audience aujourd'hui de qu'est-ce que vous faites dans un marketing non payant chez Polysleep pour faire promouvoir la marque au maximum de gens possible.
Tu as bien expliqué ça. Donc, on faisait vraiment face que les coûts marketing, comme tu disais, augmentaient année après année. Ça n'aurait pas été soutenable si on se voit dans l'avenir 5 ans plus tard. Donc, il fallait changer la stratégie, nos investissements où qu'on les met. Qu'est-ce qu'on a fait? On a 2 ressources dédiées dans l'équipe Polysleep vraiment pour gérer les comptes médias sociaux. Donc, une personne qui gère plus le calendrier des publications, genre les plateformes. Et on a rajouté une ressource dernièrement qui est vraiment dédiée au marketing d'influence, qui est quelque chose que pour nous, en ce moment, cette année, fonctionne excessivement bien. Parce que tu l'as bien expliqué, on est à la merci de Meta, Google. Mais qu'est-ce qui me fait peur aussi en tant que gestionnaire marketing, c'est des lois, toutes les choses qu'on a moins le contrôle. Tu peux améliorer ta publicité pour réduire les coûts Meta, optimiser, fait que tu pourrais t'en sauver, mais avec les histoires comme qu'on regarde de loin, avec peut-être un bannissement de TikTok qui se passerait dans les prochaines années, faut faire attention d'être à la merci de ces plateformes-là puis de rely juste sur Meta, rely juste sur Google. Fait que nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a vraiment essayé de miser sur des stratégies plus organiques. Puis les médias sociaux, c'est sûr que c'est un des médiums qui est le plus important, je dirais, pour une stratégie organique parce que c'est un des seuls canaux qu'on peut avoir des échanges avec nos clients potentiels, nos clients actuels. Même pour les magasins, les employés vont être sur les médias sociaux, donc ils peuvent apprendre plus notre marque par cette entremise-là. Puis ça a été vraiment un point tournant pour nous pour connecter avec notre communauté, surtout dans une industrie que le lifetime value est anémique, on dirait, parce que tu changes ton matelas aux 10 ans, les oreillers aux 2 ans. Donc, c'est important de créer une communauté, non pas pour augmenter les achats spontanés, mais aussi pour que les gens parlent de la marque à des membres de la famille qui savent qu'ils sont une période de déménagement. Mais les médias sociaux, c'est sûr qu'on met de plus en plus de temps et énergie, surtout au niveau organique.
Attaquons le premier point que j'ai trouvé intéressant. Marketing d'influence, effectivement, ça fait partie d'un mix, on pourrait dire ça, global, organique. On peut faire notre propre contenu, mais on peut également travailler avec des ambassadeurs de marque. À quoi ça ressemble chez vous, cette stratégie-là? Qui attaquez-vous? Avec qui travaillez-vous? Est-ce que c'est des gens uniquement au Québec, des gens au Canada, des gens dans d'autres pays, des types d'âge spécifiques? Je serais peut-être curieux de t'entendre sur la stratégie.
Solide question. Donc, on a passé pas mal partout parce qu'on ne sait pas jour un, puis peut-être la formule que je vais dire s'appliquerait pas à toutes les marques. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est de l'essayer parce que ce qui est plaisant, si c'est bien fait, c'est pas une stratégie qui est trop coûteuse, trop onéreuse. C'est du temps, souvent. C'est long. Créer un contrat, faire des échanges avec un influenceur pour s'assurer qu'il publie son contenu, c'est vraiment du temps. C'est souvent pas l'investissement derrière qui est compliqué puis qu'il faut débloquer un budget supplémentaire. Donc, on a pas mal essayé tout, des plus gros influenceurs, des plus petits influenceurs. Et nous, la recette qui semble gagnante pour l'instant, mais ça va peut-être changer, on est ouvert aux autres stratégies, c'est beaucoup d'échanges de produits. Et on donne, dans le fond, des codes promo dédiés à chacun des influenceurs. Parce que l'autre métrique qui est toujours difficile, comme quand on achète un billboard ou on fait des trucs hors ligne, les influenceurs, des fois, on sait pas à quel point lesquels fonctionnent, lesquels fonctionnent pas. On peut voir leur impression, on peut avoir une idée de l'engagement, du nombre de likes, le nombre de commentaires qui peut être un gage de succès. Mais en leur attribuant chacun un code promo, ça nous permet de générer aussi, de rendre rentable cette stratégie-là, en plus d'avoir toutes les impressions qu'on n'aurait pas nécessairement eues dans leur communauté. Donc, nous, c'est vraiment ça. Puis, on cherche surtout, je te dirais, le succès, nous, c'était souvent comme des micro-influenceurs dans les alentours de 20 000. On va dire 5 000 même. Fait que c'est quand même très, très bas, mais on a eu du succès avec des très petites communautés vu qu'ils sont très tissés serrés avec l'influenceur. Jusqu'à 50 000, je te dirais, c'est un bon sweet spot. Après, quand on dépasse ça, là, c'est là que ça devient vraiment plus coûteux par publication. Puis nous, on a pris la décision d'y aller avec la quantité au lieu de qualité. Alors, je me rappelle, il y avait une statistique. Je sais pas si c'est mis à jour parce qu'on est direct dessus sur les bancs d'école quand il expliquait, puis on lisait la littérature sur l'influence qui émergeait. Il disait tout le temps, puis ça m'avait surpris que 5 à 10 % des influenceurs fonctionnent. Fait que là, j'étais comme aïe aïe. Si dans ton budget marketing, tu donnes 10 000 à 5 influenceurs, tu as peu de chances d'avoir un succès, c'est juste 5 %. Fait que c'est avec cette mentalité-là, dans le fond, dans l'équipe, qu'on a essayé d'en emmener beaucoup. Puis à la longue, je te dirais qu'on se rapproche généralement de ces pourcentages-là, qui peut sembler très faible, mais le 5 à 10 % d'influenceurs qui fonctionnent bien, généralement, va amplement dépasser tous les coûts des 90 % autres. Fait que c'est vraiment notre philosophie. Ça nous permet de, oui, faire des ventes, parler à des communautés qu'on n'avait peut-être pas l'habitude avec nos stratégies payantes ou avec notre marque et le bouche à oreille. Mais qu'est-ce qui est intéressant, surtout, c'est aussi d'avoir du beau contenu de qualité. Fait que on a notre studio qui produit du beau contenu, mais c'est comme quand j'étais jeune puis je finissais deuxième sur deuxième dans une compétition puis mon père me disait « t'es le meilleur Joe au monde, continue comme ça ». Quand c'est toi-même ou ta famille qui te dit « t'es beau, t'es bon », ça a moins d'impact que si c'est une autre personne dans ses propres mots, dans son environnement qui dit qu'il est bon. Puis c'est ça qu'on a vu vraiment un gros changement. Même, j'ai pas la donnée exacte, mais dès qu'on a commencé à faire les influenceurs, le taux de conversion sur le site web a vraiment augmenté. Fait que c'est sûr que ça a eu un lien direct. Et pour ta question qui disait, est-ce que c'est Québec, est-ce que c'est Ontario? Nous, notre stratégie au Québec, on est quand même bien connu. Marque québécoise, ça fait des années qu'on fait beaucoup d'initiatives, autant en télévision qu'Occupation Double, name it. On est quand même très connu. Fait qu'on essaie de splitter, dans le fond, le nombre d'influenceurs par région. Fait qu'on a vraiment un système qu'on reçoit les demandes, on juge de quelle région ils sont, on juge la qualité de leur contenu et on essaie de varier aussi le type de persona. Donc, c'est des classiques pour des matelas, ça serait des moms, des athlètes, des étudiants, des couples, des personnes plus âgées. Fait qu'on essaie comme de faire un mix de toutes ces audiences-là pour justement promouvoir des produits différents pour des clientèles différentes, mais toucher des communautés. Ça fait un feed plus dynamique, les stories chaque jour. On peut parler au moins à tous les types d'audiences qu'on essaie de toucher. Fait qu'on fait comme un gros melting pot de tout ça, puis ça roule en permanence.
Intéressant. J'aimerais juste analyser quelques points avec toi ici.
Ouais.
Quand tu parles de marketing d'influence sur la quantité, j'adore ce que tu dis, c'est parce qu'effectivement, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui qui n'en ont jamais fait, c'est un peu une loterie. On ne sait pas exactement comment ça va fonctionner. Donc, l'idée d'avoir un bon volume d'influenceurs, spécifiquement si on travaille avec des micro-influenceurs, c'est primordial ici. L'autre point que j'ai trouvé très intéressant, c'est quand tu nous parles de la traçabilité de tout ça. Donc, essentiellement, ce qui se déroule ici, et corrige-moi si je me trompe, Jonathan, c'est que chaque influenceur possède une promo, possède un code, possède une offre spécifique que vous pouvez tracer de votre côté. Est-ce que c'est de même exactement que ça fonctionne?
Exactement, parce que avant qu'on ouvre les valves pour la stratégie d'influence, dans notre industrie, l'affiliation est très présente. Quand tu tapes sur Google « best mattress », et le site dit que le meilleur matelas est Polysleep, ben malheureusement, c'est souvent une rémunération qui se passe derrière pour que tu sois premier dans un classement. That's how life works, malheureusement. Donc, faites attention si vous cherchez un nouvel ordinateur, des écouteurs que vous voyez numéro un partout. C'est peut-être juste la compagnie a mis vraiment les bouchées doubles niveau financier. Fait que nous, on avait déjà un système robuste parce qu'eux, ils sont habitués de fonctionner avec des codes promo ou même que si une vente provient, s'ils sont n'importe où dans le funnel du client, ils reçoivent une commission sur les ventes. Fait que nous, qu'est-ce qu'on propose à tous les influenceurs qu'on embarque dans l'aventure Polysleep, c'est de devenir ambassadeur affilié pour nous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on leur donne un code promo. Ils l'utilisent ou ils l'utilisent pas, mais ils vont faire de la commission, admettons, sur chaque vente réalisée avec le code promo. Donc, parce que qu'est-ce qui est important aussi pour le volet influenceur, c'est que ça demande déjà beaucoup d'énergie, les accueillir dans la famille Polysleep. Il faut faire de la recherche, il faut les contacter, signer les contrats. Un coup de ces faits, généralement, ça se passe bien, ils font leur contenu. Mais qu'est-ce qui est triste, c'est que tu mets beaucoup d'énergie et c'est fini après. Si tu fais pas de suivi, s'il y a pas d'incitatif pour le long terme. Donc, nous, oui, on veut rentrer de la quantité, mais on veut que les bons qui fonctionnent pour nous perdure dans le temps, reste collaborateur avec nous, reste ambassadeur. Donc, le code promo leur permet un peu d'avoir un incitatif financier dans le temps, que plus qu'ils vont parler de notre marque, plus qu'ils vont réaliser des ventes, s'ils embarquent dans notre stratégie de Black Friday au bon moment, ben l'influenceur, en postant, ben il va peut-être faire une très, très bonne rémunération. Donc, ça, c'est comme un incitatif super, super plaisant pour eux.
Bien sûr. Puis, tu as parlé également de la qualité de contenu. Vous avez un studio chez vous, effectivement. Et au-delà de ça, les influenceurs peuvent créer du très, très bon contenu. Qu'en est-il de cette stratégie avec votre propre marketing à vous? Mon point est-ce que vous pouvez et est-ce que vous faites de manière systématique des campagnes de publicité, des contenus sur vos différentes plateformes avec les vidéos, les images fixes que les créateurs de contenu vont faire pour vous?
Oui, c'est ça. Parce que là, on parle comme si ça serait deux stratégies complètement différentes, l'organique et le payant. Mais moi, je vois ça vraiment interrelié. Donc, ouais. Souvent, un bon influenceur ou une bonne, un bon UGC ou un bon contenu va rentrer avec le temps dans notre stratégie payante. Puis, on élague, dans le fond, tous les contenus avec le temps qui performent moins dans la stratégie payante, on les flush. Puis, on les remplace continuellement par les meilleures choses que notre studio va créer, le UGC, les influenceurs. Fait que c'est vraiment comme une roue qui tourne continuellement. Puis, définitivement, que ça soit un influenceur ou non, on publie sur notre compte, dans le fond, leur contenu, c'est dans les performants.
Intéressant. Et si on regarde purement vos plateformes sociales, donc disons votre Instagram, votre TikTok, votre compte Facebook et peut-être que d'autres plateformes que vous utilisez, votre compte LinkedIn, est-ce qu'il y a un canal en soi, excluant les influenceurs aussi qui rentrent en ligne de compte, qui vous amène un peu plus de trafic, un peu plus de revenus? Est-ce que vous avez cette rigueur de traçabilité avec vos plateformes organiques comme vous l'avez avec vos créateurs de contenu?
Oui, 100%. Donc, on analyse vraiment précisément chaque mois, même chaque semaine, la provenance du trafic, la provenance des revenus. Et c'est ça qui va déterminer la stratégie payante où qu'on va investir plus. Fait que ça, c'est sûr qu'au niveau payant, ça permet de savoir la répartition du budget du prochain mois parce que les tendances dans les dernières années ont changé. Nous, ça avait commencé très fort, Meta, Google, et ça switch de plus en plus vers TikTok. Parce que TikTok, on peut parler à une audience qui est quand même similaire à un niveau payant, puis même niveau organique, c'est là généralement qu'on va avoir des reach qui dépassent notre communauté. Fait que c'est là qui est intéressant. C'est rare que sur Instagram, on va publier un Reels, puis que ça va pick up puis dépasser notre audience de 27 000 et quelques followers. Mais sur TikTok, c'est quand même commun qu'à la quantité qu'on publie, s'il y en a un qui fonctionne, que les gens trouvent drôle, les gens trouvent engageant, les gens apprennent avec ce contenu-là, sky's the limit. Donc oui, on regarde vraiment ça, mais d'un point de vue organique, j'essaie de dissocier un petit peu le niveau vente, puis c'est vraiment plus des métriques secondaires comme le taux d'engagement, le nombre de followers, la croissance de followers qu'on regarde. Donc, dans notre stratégie organique, c'est vraiment là-dessus le focus de trouver des façons d'engager avec notre communauté. Parce que comme que je disais plus en introduction, la puissance des médias sociaux, c'est pas seulement de faire un contenu qui est beau, mais c'est de faire un contenu qui est beau, qui parle à l'audience. Parce que c'est un des seuls canaux, comme j'expliquais, qui permet d'engager. Puis c'est souvent ça, je trouve, plate, que beaucoup de créateurs, autant de contenu que de compagnies oublient. Ils voient ça comme un panneau publicitaire. Et ça finit là. Donc, après, les compagnies le réalisent peut-être pas, mais la communauté diminue, elle est pas engagée, puis ça passe complètement à côté de la force des médias sociaux qui est d'engager avec la communauté. Donc nous, on essaie, oui, d'avoir des contenus, dépendamment les plateformes, super belles, super drôles, mais on essaie toujours de mettre un point dans la publication qui permet de connecter avec les gens pour qu'ils répondent, pour qu'ils parlent, pour qu'ils appellent notre service client. Il faut engager avec la communauté, puis c'est vraiment ça qui est important.
Et dis-moi, tu as parlé plus tôt que votre lifetime value est quasiment anémique, mais c'est très compréhensible dans la catégorie dans laquelle vous opérez. Ceci étant dit, vous avez des produits complémentaires additionnels comme des oreillers, si on regarde un peu sur votre site Internet. Est-ce qu'au final, vos médias sociaux, vous êtes capable de leur attribuer une valeur sur des achats complémentaires? Est-ce que la communauté que vous bâtissez, vous êtes capable ultimement de la monétiser au-delà de la première transaction? Est-ce que c'est une analyse que vous avez faite de votre côté?
Celle-là, on l'a peut-être moins fait parce qu'au début de la compagnie, on n'était pas comme dans les temps d'un changement de produit. Là, on commence à l'être après 8 ans, 7 ans. Mais définitivement, parce que le but, c'est de connecter avec l'audience pour qu'ils nous unfollow pas, parce que c'est souvent ça qui peut se passer pour une compagnie de matelas. Quand tu es à la recherche, tu t'abonnes. Puis quand l'achat est fait, après comme un an, tu te demandes pourquoi tu suis encore cette page-là, tu te rappelles peut-être même plus de la marque de ton matelas, tu te désabonnes. Fait que c'est pour ça que la stratégie d'influence, c'est de longue haleine, c'est vraiment important. Puis on fait toujours un mix entre des matelas puis de l'accessorisation. Parce que oui, t'expliquais ce chemin-là de matelas oreiller, mais souvent un premier pas dans la customer journey, ça serait que le client jette un oreiller chez nous. C'est moins coûteux, t'as moins à faire un gros move financier pour essayer un produit polysleep qui est shippé d'une boutique en ligne à chez toi. Donc, on essaie vraiment de miser là-dessus, surtout pour les nouveaux followers, d'essayer de leur faire essayer au moins le pélo, voir la qualité des produits, tester c'est quoi un produit polysleep et pourquoi ils sont meilleurs que la compétition. Et par la suite, justement, mêler les contenus de matelas. On a aussi le polycouch qui est comme un divan rétractable qui est vraiment alléchant sur les médias sociaux parce que c'est différent. Donc, on essaie de faire vraiment un mix de tous nos produits. Puis, ça peut aller des fois avec la saisonnalité, comme les matelas RV, les matelas bébés. Il y a plus de naissances généralement au début de l'hiver. Fait qu'on essaie de matcher justement les produits avec la saisonnalité.
Intéressant. Et bon, qu'est-ce qui vous attend dans les 12 prochains mois? Est-ce que vous allez continuer à mettre encore plus d'efforts sur votre stratégie organique? Qu'est-ce que vous planifiez un peu de votre côté?
100%. Le but, comme je disais, c'est de jamais arrêter, tester encore des trucs. On prend jamais rien pour acquis. Si une nouvelle plateforme qui rouvre, on va être le premier jour dessus à l'essayer. Parce que c'est ça, je pense, qui fait la force de Polysleep puis l'équipe derrière, justement, qui construit toute la gestion de médias sociaux, c'est de continuer. Parce que le plus grand challenge, c'est de prendre pour acquis puis pas de tenter d'innover. Puis c'est là que peut-être un compétiteur ou une autre industrie, une autre marque va prendre le dessus. Parce qu'il faut se rappeler que les médias sociaux, on est tellement inondés de publications, de publicités. Donc, le attention span des clients est peut-être une seconde. Donc, il faut se battre pour cette seconde-là. Donc, nous, c'est vraiment de continuer. Il y a des plateformes émergentes qu'on commence à mettre notre nez dedans, comme les Pinterest, les Reddit aussi, qu'on a commencé à mettre des stratégies en œuvre qui est super intéressant. Alors, c'est nouveau pour nous, mais c'est aussi moins d'entreprises, moins de publicité sur ces plateformes-là. Donc, c'est plus facile de se distinguer. Et la prochaine étape pour nous, ça serait de trouver, dans un monde idéal, comment notre stratégie de contenu peut aussi aider tout ce qui est les ventes en magasin. Parce que ça, c'est la prochaine question qu'on va devoir se creuser. Pour le online, ouais. En ce moment, ça va super bien. Mais comment utiliser cette même stratégie-là? Pourquoi ça l'impacte le online, mais que ça l'aide autant les magasins que le online? Parce que le futur de l'entreprise va passer vraiment par une stratégie qui est omnicanale, justement, que peu importe la façon qu'un matelas pourrait être vendu, on veut le faire. Donc, si Elon Musk nous amène sur Mars, ben peut-être que ça sera la prochaine chose. Puis j'espère que les médias sociaux nous permettront justement d'en arriver là.
Bon, ben écoute, on va suivre ça de près. Jonathan, merci beaucoup. Ici, on va en savoir un petit peu plus sur vous. Là, je te vois aujourd'hui. Où est-ce que tu enregistres ce podcast-là? Est-ce que c'est nouveau tout ça?
Nouveau d'un an, mais on travaille fort. Fait que justement, là, on parlait de stratégie de contenu. Ben on a créé le studio Polysleep pour nous aider. Pour réactivité, on a des talents exceptionnels pour la production. Vous allez voir la qualité du contenu qu'on publie sur nos comptes. C'est parce qu'on a l'équipe à l'interne qui nous permet justement de réaliser ça. Si on a des changements dans les produits ou des trucs qu'on veut pousser, des promotions, on le fait. Puis dans le fond, dans les derniers mois aussi, tellement qu'on est rendu bon, exceptionnel pour Polysleep, on commence à vendre nos services à d'autres compagnies qui en ont besoin. Donc, mettre notre savoir qu'on apprend avec Polysleep justement par l'entremise du Polysleep Studio. Mais oui, on s'est équipé quand même bien. Je ferai pas le tour, mais on a des murs amovibles, on construit des chambres, on fout le bordel des fois pour des photoshoots, après on met ça tout beau, tout clean, mais tout se passe ici entre les quatre murs chez Polysleep.
Fantastique, bon, mettre un lien dans les notes de l'épisode. Jonathan, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Commercialité.